Toujours en continuant dans l'histoire de l'Église du 7e siècle, l'histoire des protestants, nous avons vu que la révocation de l'édit de Nantes avait conduit à la fin du siècle, quelques 20-25 ans après, à la révolte armée dans les Cévennes. La révolte armée dans les Cévennes est absolument incompréhensible si on ne comprend pas le rôle qui ont joué les prophètes. Le prophétisme cévenol, le prophétisme de type charismatique au sens fort du terme, qui a marqué cette région dans les circonstances tragiques que nous envisageons ce soir. C'est en 1688, dans le Dauphiné, en fin de compte, ça veut dire une province qui était voisine des Cévennes, qu'a commencé le mouvement prophétique avec la personne d'une jeune fille de 15 ans qui se nommait Isabeau Vincent, qui habitait un village proche de Crest et qui, soudain, s'est mise à parler dans son sommeil. Vous allez me dire, rien de bien extraordinaire en cela, plus d'une personne parle dans son sommeil. Mais ce qui était particulier pour le cas de cette jeune fille, c'est qu'elle disait des choses admirables, disent les témoins. Bon, c'était une jeune fille qui parlait le patois local, qui ne savait pas parler en bon français, mais quand elle parlait dans son sommeil, elle parlait dans un français impeccable qu'elle ne connaissait pas. Et elle parlait des merveilles de Dieu, annonçant des choses, prophétisant, etc. Bon, le bruit s'est répandu de ce qui se passait dans la maison de cette fille. Et puis, à partir de là, ses inspirations prophétiques se sont aussi manifestées quand elle était éveillée. Et donc, ça s'est su. Et notamment, elle cherchait à encourager les protestants persécutés, leur disant que le Seigneur leur demandait de rester fidèles, qu'il leur ferait grâce et qu'il leur enverrait la délivrance, etc. On venait de loin pour entendre Isabeau Vincent prophétiser, jusqu'au moment où les autorités catholiques s'en sont émues, bien évidemment. Isabeau Vincent était arrêtée, jetée dans un couvent, et on pensait, n'est-ce pas, que les choses allaient en rester là. Peine perdue, d'ailleurs, comme elle l'avait annoncé dans ses prophéties, disant « Vous pourrez m'arrêter, vous pourrez me brûler, vous pourrez me tuer. » Dieu en suscitera des milliers d'autres qui diront des choses encore plus belles et encore plus importantes que ce que je dis. Et de fait, il en a bien été ainsi. Bien qu'enfermé dans son couvent, l'Esprit du Seigneur a continué à travailler. Et dans les années qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, 200 à 300 enfants dans tout le Dauphiné se sont mis à prophétiser, comme l'avait fait auparavant Isabeau Vincent. C'était donc un phénomène qui s'est répandu comme une traînée de poudre, spontanément, sans aucune préparation, et qui touchait essentiellement des enfants et des jeunes. C'était d'ailleurs que parfois des choses tout à fait étranges, dont on a peu de parallèles ailleurs, des enfants, même des enfants parfois tout petits, n'est-ce pas, se mettaient à prophétiser et se mettaient à annoncer donc des choses extraordinaires. Sous l'influence de ces petits prophètes, comme on les appelait, se sont créées des assemblées clandestines de type charismatique. On n'avait plus de pasteurs, on n'avait pas encore de prédicants. C'était un mouvement spontané qui se rassemblait autour des petits prophètes. Et là, n'est-ce pas, dans la solitude des clairières, des grottes, on attendait que l'Esprit du Seigneur se manifeste au travers de ses enfants. Bien entendu, les autorités ne sont pas restées sans réagir en face de ce phénomène. Et petit à petit, ils ont réussi à introduire des espions dans les assemblées. Et c'est ainsi que, le 19 février 1699, une de ces assemblées charismatiques clandestines a été surprise par un détachement de police royale. Un massacre s'en est suivi. Et ainsi, les assemblées clandestines ont pris fin pour un temps. Il y a dans l'histoire officielle une théorie, n'est-ce pas, qui a été reprise à maintes et maintes reprises, selon laquelle le sire de Serres, n'est-ce pas, aurait lui-même fondé une école pour les prophètes à Dieulfi, sa ville natale, et que le mouvement serait en fin de compte parti de là. Il semble bien, selon les dernières recherches, que tout cela soit une invention, une calomnie des catholiques pour discréditer le mouvement, pour nier son caractère spontané, mais les historiens sérieux reconnaissent qu'il y a bien eu, en fait, un caractère spontané dans ce réveil extraordinaire qui a secoué le Dauphiné et les Cévennes à cette époque-là, et qu'on a appelé donc le mouvement des petits prophètes. Les prophètes, évidemment, ont été persécutés, on peut l'imaginer. Bon, plusieurs, évidemment, ne sont pas restés jeunes, comme tout le monde, ils ont mûri, ils ont grandi. Et une des accusations qu'on a portées contre eux était une accusation d'immoralité. Isabeau Vincent elle-même a été accusée, n'est-ce pas, d'exhibitionnisme et de choses semblables dans les moments où elle prophétisait, ce qui était faux. Et puis, cette calomnie s'est répandue pour pratiquement tous les prophètes. C'était un mouvement immoral où les jeunes, n'est-ce pas, avaient des relations entre eux, en dehors des liens du mariage, etc. Bon, il y a une chose certaine, n'est-ce pas, c'est que l'effusion du Saint-Esprit à toutes les époques, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas accompagnée d'une vie de sainteté très forte, peut favoriser effectivement des débordements, notamment lorsque personnes du même sexe prient ensemble, de sexes différents, je veux dire, prient ensemble. Et on a vu donc le mouvement de Pentecôte actuel aussi, hélas, un nombre important, n'est-ce pas, de chutes parfois même de serviteurs de Dieu qui se sont trouvés amenés, justement, qui se sont trouvés dans des situations comme ça, sans avoir pris un certain nombre de précautions. Bon, alors il y a eu, effectivement, il faut reconnaître ce qui est vrai, il y a eu, chez les petits prophètes, un certain nombre de cas d'immoralité. C'est vrai. Tous n'étaient pas des saints. Deuxièmement, et le fait justement d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas une preuve de sainteté. C'est une grâce qui est donnée, c'est tout. La prophétie peut être authentique sans qu'obligatoirement l'instrument qui le donne soit saint. Balaam en est l'exemple le plus typique. Bon, à Corinthe aussi, on connaît des cas comme ça. Deuxième chose, il faut dire que beaucoup de ces prophètes, quand ils grandissaient, bien entendu, cherchaient à se marier. C'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Et leurs inspirations leur interdisaient de se marier devant les prêtres. C'était à cette époque-là les seuls qui tenaient l'état civil. Il n'y avait pas d'état civil laïque, bien évidemment. Et par conséquent, pour être marié, il fallait donc passer obligatoirement devant le curé. Beaucoup de protestants à cette époque-là s'y étaient résignés, n'est-ce pas ? Mais c'était précisément l'accent qui était mis par les prophètes sur le fait que on ne devait avoir strictement aucun compromis vis-à-vis de la grande Babylone, la grande prostituée qui était l'Église catholique, et par conséquent, il n'était pas non plus question de se marier devant les autorités catholiques. De ce fait, il y a eu, pendant cette période, de très nombreux mariages au désert, c'est-à-dire des mariages qui ont été contactés devant l'Assemblée du désert, l'Assemblée qui se rassemblait donc dans ces conditions-là, et qui n'ont pas été enregistrés sur aucun autre état civil que celui, justement, des églises clandestines. Tant et si bien que pour les autorités officielles catholiques, ces gens-là étaient des concubins. Et par conséquent, aucun mariage de prophète n'ayant été officiellement enregistré, ceux qui vivaient ensemble et avaient de la famille étaient considérés comme vivant dans l'immoralité par les autorités catholiques. Évidemment, après coup, c'était très facile pour eux de dire que c'était des gens qui vivaient dans l'immoralité, alors que pour beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas, c'était un mariage tout à fait sérieux, un engagement tout à fait sérieux, et certainement devant Dieu, ils l'étaient bien évidemment aussi, et ces gens-là, pour eux, pour leurs coréligionnaires, ils étaient mariés d'une manière tout à fait sérieuse, certainement beaucoup plus sérieuse que ne l'était Sa Majesté le Roi de France, dont on sait que les phrases extra-conjugales étaient extrêmement nombreuses. Maintenant, on peut dire que cette époque-là il y a vu un gros effort aussi de la part des jésuites pour essayer de noyauter le protestantisme en France d'une manière générale. Et les jésuites ont monopolisé à cette période-là l'enseignement. il était absolument indispensable d'empêcher l'émergence de nouvelles élites protestantes. Par conséquent, il y avait une tentative d'abêtir, si vous voulez, systématiquement les protestants, après qu'ils aient été aussi une des élites intellectuelles de la nation. Cette époque-là a vu les intellectuels, précisément protestants, être pris entre deux feux. Certains sont restés fidèles, tel Agrippa d'Aubigné, Duplessis Mornay, d'autres ont apostasié, tel Théophraste Renaudot, le créateur du journalisme, le créateur de la Gazette, n'est-ce pas, était d'origine protestante, mais il a apostasié. Voici un poème, je vais vous lire un poème d'Agrippa d'Aubigné, qui se nomme L'Enfer et qui évoque un petit peu ce qu'était la situation des protestants à cette période-là. Ô enfant de ce siècle, ô abusé moqueur, imployable esprit, incorrigible cœur, vos esprits trouveront à la fosse profonde vrai ce qu'ils ont pensé une fable en ce monde. Qui vous consolera? L'ami qui se désole vous grincera des dents au lieu de la parole. Les saints vous aimaient-ils? Un abîme est entre eux. Leur chair ne s'émeut plus, vous êtes odieux. Mais n'espérez-vous point fin de vos souffrances? Point n'éclaire aux enfers l'aube de l'espérance. Dieu aurait-il sans fin éloigné sa merci? Qui a péché sans fin, souffre sans fin aussi. La clémence de Dieu fait au ciel son office. Il déploie aux enfers son ire et sa justice. Transi désespéré, il n'y a plus de mort qui soit pour votre mère les orages, des orages le port. Que si vos yeux de feu jettent l'ardente vue à l'espoir du poignard, le poignard plus ne tue. Que la mort, direz-vous, était un doux plaisir. La mort morte ne peut vous tuer, vous saisir. Voulez-vous du poison? En vain cet artifice. Vous vous précipitez? En vain le précipice. Courez au feu brûlé, le feu vous gèlera. Noyez-vous, l'eau et feu, l'eau vous embrasera. La peste n'aura plus pour vous de miséricorde. Étranglez-vous, en vain vous tordez une corde. Criez après l'enfer, de l'enfer il ne sort que l'éternelle soif de l'impossible mort. Aboyez comme chien, hurlez en vos tourments, les satans découplés d'ongles et dents tranchantes, sans mort déchireront leur proie renaissante. Leurs visages tyrans vous transiront. Ils vengeront sur vous ce qu'ils endureront. Ô malheur des malheurs, quand tel bourreau mesure la force de leurs coups au grand coup qu'ils endurent. Donc ici, vous avez un poème qui a deux buts, deux fins. Premièrement, dire aux huguenots, supportez vos souffrances. Vaut mieux souffrir dans ce monde-ci quelques courts moments, n'est-ce pas, tout en restant fidèle au Seigneur, plutôt que de souffrir à l'infini et sans fin dans l'enfer. Et puis deuxièmement, de dire, eh bien, précisément ce que vos bourreaux ont voulu éviter, ou les apostats ont voulu éviter, eh bien, c'est justement ce qu'ils connaîtront eux. Un jour, il y a une justice, et un jour, ceux qui vous ont persécuté eh bien, connaîtront ces tourments de l'enfer qu'il dépeint ici avec beaucoup de talent, n'est-ce pas, et beaucoup de verve, n'est-ce pas. Donc, il y a ce double aspect, n'est-ce pas. Il y avait des gens qui restaient fidèles et contre tout, et puis il y avait ceux, n'est-ce pas, qui, notamment pour des raisons de commodité, eh bien, finissaient par apostasier. Alors, nous avons là une situation qui va se poursuivre pendant les dernières années du siècle et puis qui se traduira au début du siècle suivant par la révolte armée. Dans le même temps, il y a une autre évolution qu'il faut aussi noter, c'est l'évolution de l'Angleterre, ou plutôt la révolution qui, quelques années après la révocation de l'édit de Nantes en 1688, va secouer l'Angleterre. L'Angleterre qui va devenir la grande puissance européenne, rivale de la France, n'est-ce pas, et qui profite de ce fait de la décadence de la Hollande. Le roi Jacques, qui règne à cette époque-là sur le trône d'Angleterre, va d'abord être écarté par les catholiques, car la question religieuse en Angleterre est loin d'être résolue. Et le parti catholique, n'est-ce pas, reprend du poil de la bête et réussi à, convaincre le roi Jacques, écarté un instant du trône, puis revenant avec l'appui des catholiques, de leur donner la haute main sur les affaires religieuses du royaume. Et le roi Jacques, persécuteur des catholiques, va devenir, après son retour sur le trône, le persécuteur des protestants. C'était un homme dont on se rend compte tout de suite qu'il n'avait pas des convictions religieuses bien profondes. Il hurlait avec les loups, n'est-ce pas ? Et ce qui l'intéressait, c'était évidemment l'aspect politique. Alors évidemment, ça s'arrangeait bien les affaires du roi Soleil. Louis XIV était heureux de voir un catholique sur le trône de l'Angleterre. Et notamment, l'Angleterre, à cette époque-là, était en lutte contre la Hollande, qui était restée, elle, protestante, bien entendu, sous la direction de la maison d'Orange, Orange-Nassau. Et Louis XIV était en guerre contre la Hollande. Il a donc soutenu, bien entendu, les prétentions de l'Angleterre contre la Hollande. Mal lui en a pris. Le 15 novembre 1688, Guillaume d'Orange, donc roi de Hollande, a débarqué en Angleterre avec ses troupes. Le roi Jacques n'a même pas tenté de livrer bataille. Il s'est enfui honteusement, piteusement, pourrait-on dire. Et la route de Londres s'est trouvée ouverte devant Guillaume d'Orange sans la moindre opposition. Si bien que Louis XIV a eu la désagréable surprise de se retrouver non plus seulement avec un ennemi, la Hollande, mais avec deux maintenant, l'Angleterre. Et l'Angleterre et la Hollande unies sous le même sceptre, celui de la maison d'Orange-Nassau, qui était le pire ennemi, n'est-ce pas, de Louis XIV. Alors, c'était un coup très dur pour la politique royale. Et en même temps, n'est-ce pas, ce sentiment d'encerclement par le Nord n'a certainement pas contribué à inciter Louis XIV à plus de clémence et plus de miséricorde envers ses sujets protestants, bien au contraire. Il y a eu un durcissement qui a résulté, n'est-ce pas, de cette conquête de l'Angleterre par Guillaume d'Orange, en même temps que, bien entendu, chez les Huguenots français, ça a été au contraire un cri de joie extraordinaire. Ils ont vu la dernière fois comment même certains ont écrit, n'est-ce pas, que c'était le début de la rédemption, le milieu de la septième semaine de Daniel, et que dans 3 ans et demi, la rédemption allait venir, etc. Bon. Toujours est-il que l'arrivée au pouvoir de la maison d'Orange sur le trône d'Angleterre a eu une autre conséquence indirecte et un petit peu plus lointaine, c'est que Guillaume d'Orange était un homme qui avait déjà des idées démocratiques. Et il a été le premier roi en Angleterre qui n'a pas exercé l'absolutisme royal, qui était de mise dans toutes les cours d'Europe. Et le premier ébranlement à l'absolutisme royal a été donné à ce moment-là. Et cet ébranlement devait ensuite détruire la monarchie des Bourbons en France, n'est-ce pas ? Deux générations plus tard, c'était la fin de la monarchie française et donc la Révolution française, dont les causes sont à rechercher là aussi d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Voyez-vous, ce qu'on sème, on finit toujours par le récolter. Pour l'heure, on n'en est pas encore là. Et Louis XIV a aussi affaire avec ses marches prussiennes et allemandes, n'est-ce pas, les princes allemands. Et en 1690, eh bien, il guerroie sur le Rhin. Et c'est cette même année 1690 que une assemblée secrète de Huguenots est surprise aux alentours de la ville de Privas. Et contrairement à ce qui s'était passé pour les précédentes assemblées, les Huguenots vont se défendre. C'est le premier exemple d'une résistance armée, n'est-ce pas ? Ils ont des gardes armés qui font feu. Il y a de part et d'autre des gens qui sont tués. Et l'assemblée, bien que dispersée, ne se termine pas en massacre comme c'était le cas de la précédente. Par contre, à Castres, la même année, quelques temps plus tard, une autre assemblée aussi est surprise, mais cette fois-ci, les organisateurs de cette assemblée n'ont pas pris la précaution de leurs frères de Privas. Il n'y a strictement aucun garde armé, et là, c'est la boucherie. C'est même pas du massacre, c'est de la boucherie. Il y a 300 morts, n'est-ce pas? 300 morts dans cette affaire. Et certaines femmes, n'est-ce pas, qui sont blessées, sont achevées par les soldats à coups de couteau. N'est-ce pas? C'est absolument horrible. On déshabille les cadavres pour récupérer les vêtements tachés de sang, n'est-ce pas? Vraiment, ça dépasse toute la mesure. Et c'est alors que les protestants décident de ne plus se laisser surprendre de cette manière-là. Ils comprennent qu'ils font là, si vous voulez, le rapprochement entre les deux assemblées, une où il y avait des gens qui ont résisté. Bon, il y a eu des morts, mais la majorité a pu s'enfuir. Et puis celle où il n'y a pas eu de résistance. Et là, le sadisme des soldats royaux, n'est-ce pas, s'en est donné à cœur joie et ça a été la boucherie. La tête, si vous voulez, du mouvement à cette époque-là est le prédicateur Vivens, n'est-ce pas, qui, quelque temps après, bien entendu, on lui donne la chasse, il tombe dans une embuscade et il est tué. Le meurtre de Vivens et puis le massacre de Privas, de Castres, pardon, va provoquer un nouvel exode des protestants du Midi. Beaucoup réalisent que la situation n'est pas près de se détendre. Et 10 000 protestants du Sud fuient vers le refuge cette année-là. Maintenant, les espoirs mis par les protestants dans la personne de ce Guillaume d'Orange ne sont pas tout à fait fondés non plus. Guillaume d'Orange est certes un protestant convaincu, mais c'est un protestant réformé de stricte obédience, et il ne veut pas, qu'on insiste trop sur la sainteté, comme beaucoup de ces gens-là, n'est-ce pas? Il est beaucoup plus politique qu'autre chose. On n'arrive pas à des postes de responsabilité sans faire des compromis avec sa conscience et avec les choses de Dieu. Et Guillaume d'Orange était le chef d'un parti, mais il n'était pas un chef spirituel, loin s'en faut, il n'était pas un homme spirituel. Et on ne peut pas dire qu'il persécute, mais en tout cas, il a une grande méfiance vis-à-vis des puritains, c'est-à-dire de ceux qui, en Angleterre, mettent le plus l'accent sur la sainteté. Et puis aussi sur les Huguenots réfugiés de France, n'est-ce pas? Beaucoup de Huguenots sont réfugiés en Angleterre, mais Guillaume d'Orange se méfie d'eux, n'est-ce pas? Il se méfie d'eux, il n'a pas non plus tellement envie de se laisser embarquer dans une aventure en France, quoi. Il s'y opposera pratiquement pendant toute son existence. Donc, après la révocation de l'édit de Nantes, au péril de leur vie, à peu près 100 000 protestants, depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à la fin du siècle, 100 000 protestants vont s'enfuir, clandestinement bien entendu, la plupart d'entre eux, déguisés, profitant de complicité en Bretagne bien entendu. On part par mer, c'est infiniment plus facile. D'autres qui habitent des régions beaucoup plus éloignées ont beaucoup plus de mal à s'enfuir. Poitou, la même chose, on part par la Bretagne, par la Rochelle, par les côtes de Saint-Onge, etc. Direction l'Angleterre. Ceux qui sont dans le Dauphiné, dans les Cévennes et autres lieux fuient en Suisse, qui les accueillent, n'est-ce pas, notamment la ville de Genève. Il y a même des Bretons qui ont fui en Suisse. Une branche de la famille de Rohan, par exemple, s'est réfugiée en Suisse, à Genève. Ceux qui habitent le nord de la France, la Flandre, la Normandie, fuit en Hollande, bien sûr, en Angleterre aussi, par Dunkerque et les côtes normandes. Et puis ceux qui habitent l'Est fuient en Allemagne. Et puis enfin, il y a deux autres pays d'immigration qui vont faire partie de ce qu'on va appeler à cette époque-là le refuge huguenot, n'est-ce pas, qui est un terme aussi tiré du livre de l'Apocalypse, avec l'histoire de la femme église persécutée par le dragon dans le chapitre 12, n'est-ce pas, qui s'enfuit au désert, où elle a un lieu de refuge qui lui est réservé pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc on appelle ça le refuge à cause de ce texte de l'Apocalypse, mais en fait il faudrait beaucoup plus parler des refuges, parce que ce sont tous ces pays-là, n'est-ce pas, Angleterre, Suisse, Allemagne, Hollande, et puis deux autres maintenant pays qui vont aussi attirer les protestants, les Huguenots. Le premier, c'est évidemment l'Amérique du Nord, Et il va y avoir, dans les décennies qui vont suivre, une importante colonie huguenote qui va se créer donc dans ce qu'on appelle à cette époque-là le Nouveau Monde, n'est-ce pas ? Et puis aussi, un autre lieu d'immigration, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui est vide, qui est un pays totalement vide. C'est important aussi de le dire dans tous les problèmes actuels qui touchent à l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Les Huguenots ont créé l'Afrique du Sud, les Huguenots français ont créé l'Afrique du Sud, qui était un pays vide, il n'y avait pas de Noirs qui habitaient là, n'est-ce pas? C'était un pays absolument non peuplé. Et les premiers habitants de l'Afrique du Sud étaient des Blancs. Et ensuite, les Blancs sont remontés en direction du Nord, pendant que les Noirs descendaient en direction du Sud. Si bien que, si vous voulez, les deux ethnies se sont rencontrées à mi-chemin, et puis de là sont venus les problèmes. Bon, ici, je ne prends pas parti dans les problèmes de l'Afrique du Sud actuelle. Je signale ça simplement comme un fait d'histoire, parce qu'on réécrit l'histoire très souvent aujourd'hui donc pour des raisons politiques, mais il ne faut pas oublier qu'en Afrique du Sud, n'est-ce pas, les Blancs étaient là avant les Noirs. Ça, c'est un fait historique indiscutable et incontournable. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a d'ailleurs des noms français là-bas en Afrique du Sud à l'appel, parce que justement, beaucoup d'entre eux étaient des émigrés de France. Alors, néanmoins, malgré le fait que les pays du refuge tous aient accueilli des Huguenots, il faut quand même dire que c'est essentiellement la Prusse, et plus exactement le Brandebourg, qui a été le plus accueillant pour les Huguenots français. Il y avait des raisons religieuses, bien sûr, la Prusse était protestante, mais on peut dire aussi que la Prusse était un pays neuf, qui avait besoin d'immigration, qui avait besoin de forces vives. Or, comme les protestants qui arrivaient de France étaient souvent des gens qui appartenaient à une élite, n'est-ce pas ? C'était évidemment un grand avantage pour un pays neuf comme la Prusse d'accueillir les Huguenots français. Et chose paradoxale, n'est-ce pas ? La ville de Berlin a été, en quelque sorte, non pas créée, mais enfin, s'est développée à cette époque-là, notamment sous l'influence des Huguenots français. Ce sont les Huguenots français qui ont fait la Prusse. La Prusse qui se retournera contre la France des années plus tard, n'est-ce pas ? Mais là aussi, on peut y voir une loi divine, n'est-ce pas ? Ce que l'on sème, on le récolte. Et un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? Ce qu'on a semé, eh bien, se retourne contre soi. Bon, autre pays allemand qui accueille les Huguenots français, c'est le Palatinat. Mais le Palatinat finira par être conquis par Louis XIV, qui réintroduira le catholicisme en 1689, n'est-ce pas ? Pendant le même temps, les jésuites essayent d'intriguer en Scandinavie. Et notamment, les jésuites, qui se sont infiltrés en Suède, persuadent le petit-fils de Gustave Adolphe, le roi de Suède, n'est-ce pas, à revenir au catholicisme. Et puis, c'est sa femme, n'est-ce pas, après l'abdication de ce dernier, la reine Christine de Suède, qui se convertit au catholicisme. Seulement, elle est obligée d'abdiquer. Et elle s'expatrie à Rome notamment, n'est-ce pas, où elle vivra une vie dorée dans l'ombre du Vatican, n'est-ce pas. Entre 1674 et 1700, on signale, donc avant, si on part avant la révocation de l'édit de Nantes, 1674, c'est donc à peu près 10 ans avant la révocation de l'édit de Nantes, 11 ans, n'est-ce pas. Donc il y a déjà eu des départs à ce moment-là, importants. Ceux qui avaient suffisamment de clairvoyance pour se rendre compte que les choses se dégradaient fuyaient. Et il y a donc eu, de 1674 à 1700, 200 000 départs. Sur un pays comme la France, c'était quelque chose de tout à fait sensible. D'autant plus que c'était des gens qui tenaient grands secteurs, des secteurs entiers de l'économie entre leurs mains. L'industrie, par exemple, en Bretagne, toutes les industries des voiles, les voileries, n'est-ce pas, étaient entre les mains des Huguenots. Et quand un huguenot décidait de partir, c'était non seulement l'huguenot, sa famille, ses ouvriers protestants qui filaient avec lui, mais c'était les ouvriers catholiques qui restaient derrière, qui se retrouvaient au chômage, parce qu'ils n'avaient ni le savoir-faire, ni les compétences des patrons pour pouvoir faire marcher la fabrique. Si bien qu'on assistait en Bretagne, par exemple, à cette époque-là, à des faillites en chaîne, un petit peu comme aujourd'hui, si vous voulez, dû au départ des huguenots. Des huguenots qui, en Bretagne, n'étaient pas une des régions de plus forte implantation protestante. Hein. C'était une toute petite minorité qui habitait la Bretagne. Mais ils tenaient entre leurs mains les principaux secteurs de la vie économique du pays. Quand ils sont partis, eh bien, l'économie du pays, l'économie de la province s'est effondrée, tout simplement. Dans d'autres régions de France, dans d'autres provinces de France, c'était dans d'autres secteurs, par exemple le domaine du textile, dans les Flandres ou des choses semblables, n'est-ce pas? Et là aussi, quand les huguenots sont partis, n'est-ce pas, c'était l'effondrement de pans entiers de l'économie française. Et là, le roi Soleil a fait une erreur monumentale qui a précipité le déclin de la France, comme nous l'avons déjà noté, de la même manière que l'expulsion des Juifs d'Espagne avait entraîné le déclin d'Espagne. Maintenant, cette immigration profite aussi à d'autres. De la même manière que les Juifs expulsés d'Espagne ont fait la fortune de l'Empire ottoman, dans lequel ils sont allés se réfugier, notamment ont modernisé l'armée turque. Ils avaient le monopole de la fabrication des armes, et ils ont été heureux, n'est-ce pas, les Juifs expulsés, bien sûr, de mettre à la disposition des adversaires de leurs persécuteurs leur savoir-faire dans le domaine des armes, et c'est ainsi que les Turcs ont pu menacer Vienne quelques années plus tard. Eh bien, on assiste exactement au même phénomène, au même processus avec les Huguenots. Les Huguenots vont mettre à disposition de la Prusse leur savoir-faire et ils vont moderniser l'armée prussienne. L'armée prussienne deviendra une des principales armées du monde grâce au savoir-faire des Huguenots. Et vous, là aussi, ce que l'on sème, évidemment, on le récolte. Donc, l'immigration profite aux ennemis de la France. Et puis, il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que ces Huguenots, beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas, se sont enfuis pour des convictions religieuses, mais ils ont laissé parfois au pays, n'est-ce pas, une partie de leur famille. Par exemple, on fuit avec les siens, bien entendu, mais comme en général on a des biens fonciers, on espère qu'un jour la situation va se résoudre et on laisse derrière soi un enfant pour gérer justement le domaine familial. Lequel enfant se fait semblant de se convertir au catholicisme, bien évidemment. Hein. Et puis on attend le jour, n'est-ce pas, où on pourra rentrer du refuge pour réoccuper le domaine familial. Seulement, la situation de ces enfants qui sont laissés derrière, n'est-ce pas, qui sont des grands-enfants, bien entendu, c'est plus des enfants au berceau, on imagine bien, hein, eh bien, est une situation très difficile. Sur le plan religieux, n'est-ce pas, bon, ils sont endoctrinés par le catholicisme, évidemment. Et puis, en même temps, ils ont leurs convictions protestantes, celles de leurs parents, qui leur ont été transmises par eux, n'est-ce pas. Et finalement, ils sont écartelés entre les deux religions. Et de cet écartèlement, notamment des enfants restés au pays, va naître le scepticisme français, le cartésianisme, dont nous avons vu qu'il fait des progrès à cette époque-là, c'est la naissance du cartésianisme. Et finalement, comme c'était le cas pour les maranes, pour de nombreux maranes, les fils d'Huguenots restés au pays, eh bien, finiront par ne plus croire ni dans le protestantisme, ni dans le catholicisme. Ils vont tomber dans le scepticisme, ils vont tomber dans ce que l'on appelle à cette époque-là le libertinage, c'est-à-dire, non pas au point de vue des mœurs d'abord, mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'athéisme, ce qu'on appelait à cette époque-là le libertinage. Hein. Et ils vont être, pas vraiment peut-être l'athéisme au sens plein du terme, mais en tout cas relativisant considérablement, un petit peu comme l'avait fait Spinoza, par exemple, après l'expulsion d'Espagne, et puis finalement ce que font de nombreux maranes. Et alors, marane, c'est-à-dire juif détaché de la religion, et huguenot, détachés de la religion, vont être, au siècle suivant, au XVIIIe siècle, les plus ardents propagandistes de ce qu'on appelle les Lumières. C'est-à-dire, finalement, la pensée moderne. La pensée moderne qui conduira à la Révolution française, puis aux révolutions dans les pays voisins, l'épopée napoléonienne, et puis ensuite l'ébranlement que seront les révolutions de 48, 1848, n'est-ce pas, et puis finalement le monde moderne. Alors, voyez-vous, les causes sont là. Et si aujourd'hui le christianisme est tant protestant que catholique est en crise dans nos pays, eh bien, il faut chercher les origines là. Une des origines, en tout cas, et une des principales dans ces deux expulsions, l'expulsion d'Espagne d'une part, et puis la révocation des édits de Nantes, donc l'expulsion de France d'autre part. Là, il y a des choses qui ne sont pas neutres, il y a des choses qui sont semées et qui poussent, n'est-ce pas, comme une semence qui est semée et qui, on ne voit pas tout de suite les conséquences, mais sur le long terme. Et maintenant, nous avons suffisamment de recul pour dire, eh bien, voilà. Voilà quelles ont été les conséquences de ces persécutions, cette intolérance qui a marqué le XVIIe siècle. Par conséquent, il y a aux quatre coins du monde bientôt des huguenots. Et en même temps, n'est-ce pas, dans le monde protestant, on accueille les huguenots comme des héros, n'est-ce pas ? Ce sont vraiment des martyrs, et on prie pour eux, n'est-ce pas, dans le monde entier. Et puis finalement, jusqu'à l'édit de tolérance de Louis XVI, n'est-ce pas, en 1785, eh bien, il y aura 300 000 départs. 300 000 départs, l'hémorragie va continuer. C'est-à-dire un tiers du protestantisme français va partir à l'étranger. C'est absolument énorme. Hein. C'est absolument énorme. On retrouvera une situation de cet ordre-là, si vous voulez, dans l'Allemagne nazie, le début des années du nazisme, de 1933 à 1939, il va y avoir aussi une hémorragie de juifs qui vont fuir, notamment aux États-Unis, la majorité d'entre eux. Hein. Les Einstein, les grands prix Nobel, les grands musiciens de l'Allemagne, n'est-ce pas, vont quitter, bien entendu. Et ça va précipiter aussi la chute de l'Allemagne. Il est bien évident que si l'Allemagne avait gardé ses savants, eh bien, c'est elle qui aurait eu la bombe atomique et pas les États-Unis. Et vous imaginez ce que ça aurait été. Donc là, il y a aussi un parallèle qu'on peut faire avec l'Allemagne nazie des premières années, parce qu'après, évidemment, c'était plus possible de sortir. Mais certains le faisaient aussi, hélas, à leurs risques et périls clandestinement. Donc, si vous voulez, voilà comment est-ce qu'on peut voir ce refuge. Et donc, ici, 1685, manifestement, nous l'avons vu, a marqué un tournant pour le protestantisme. Mais, si vous voulez, dans cette abrogation de l'édit de Nantes, il y a eu aussi des éléments positifs pour le protestantisme français. Pour une raison très simple, c'est que ça a été une nouvelle chance de renouveau. Le protestantisme français, à la veille de la révocation dite Nantes, nous l'avons vu, était quand même très, très éteint. Il connaissait plus le réveil des origines. De nombreuses communautés réformées n'étaient d'ailleurs plus que l'ombre d'elles-mêmes. Et bien entendu, la révocation va être un coup très dur. Et finalement, le protestantisme ne résistera que dans le sud, où il ne forme que 10% de la population, bien qu'ils aient l'impression de constituer une force. Le protestantisme dans le sud est surtout concentré dans les Cévennes, le Dauphiné, l'Ardèche, le Languedoc, etc. Et là, il représente parfois jusqu'à 80% de la population, comme c'est le cas dans la ville de Nîmes. Nîmes, à cette époque-là, est à 80% protestante. Alors, ça leur donne l'impression d'être en force, même si ce n'est pas vrai, parce qu'ils ne sont que 10% de la population totale du pays. Mais le fait qu'il y ait des grandes concentrations protestantes où ils sont majoritaires, leur donne l'impression qu'ils sont majoritaires partout, et leur donne l'audace que les protestants du Nord, qui se sentaient minoritaires, se noyaient dans la masse catholique, n'avaient pas eu. Maintenant, le protestantisme est essentiellement rural. Ça aussi, c'est une chose à prendre en compte, du moins ce qu'il en reste à cette époque-là. Et il le restera pratiquement jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et une des causes de la crise que connaît actuellement le protestantisme français, c'est justement aussi le processus d'urbanisation. Et le, si vous voulez, la disparition des terroirs protestants, donc à la fois dans les grandes régions protestantes du sud de la France, justement Cévennes et autres, n'est-ce pas, qui se dépeuplent, comme on peut le voir quand on visite ces pays-là, le Poitou, la Normandie et les régions, même éventuellement l'Est, n'est-ce pas, connaît aussi un petit peu ce phénomène-là. Et ça, évidemment, c'est un problème avec lequel on était bien obligé de faire. Donc ici, nous avons cette évolution que nous avons notée, qui est celle des maranes. Dans un premier temps, on joue le double jeu parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien donner des gages. Alors on fait semblant d'être catholique, d'aller à la messe, de pratiquer le culte, etc. Et puis on le fait. En secret, n'est-ce pas, on pratique son propre culte. Et puis comme nous l'avons vu, petit à petit, n'est-ce pas, on se prend soi-même en dégoût, n'est-ce pas, cette hypocrisie, ce double jeu n'est plus tolérable. Les prédicants, les prophètes qui se lèvent le dénoncent, ce double jeu-là. Et du double jeu, de la situation de Marane, on va passer à la résistance ouverte, non violente pendant un premier temps, avec les assemblées secrètes, etc. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, donc, dans certains endroits, on va passer à la révolte armée. La Normandie, par exemple, aura des velléités de ce type-là, mais le siège de Rouen lors de la première guerre de religion a brisé l'infrastructure protestante et ça ne débouchera pas. La Bretagne a été la dernière région qui a été touchée par l'édit d'expulsion, n'est-ce pas ? Peut-être justement parce qu'elle était d'abord périphérique par rapport, elle était une province un peu marginale, qui était française depuis peu de temps, et puis dans laquelle l'implantation protestante était quand même peu importante, si bien que on s'est intéressé d'abord aux provinces les plus importantes, Poitou ou autres, n'est-ce pas ? Et finalement, la Bretagne a été touchée, mais très très fort, très durement, puisque finalement, on peut dire que après la révocation de Nantes, l'essentiel du protestantisme local a été complètement déraciné et éliminé, quoi. Donc il y avait des communautés qui se sont créées dans le refuge à partir de tous ces immigrés. Et même dans le refuge, n'est-ce pas, c'est-à-dire donc essentiellement en Bretagne, en Angleterre, le problème c'est qu'il n'y avait plus de pasteurs, même pour ces communautés qui se créaient là-bas. Et sont nés alors spontanément ce qu'on a appelé les prédicants, à partir de 1688, des hommes, parfois même des femmes, qui se levaient et qui devenaient les responsables spirituels de la communauté. Alors, pendant un premier temps, les pasteurs qui étaient réfugiés au désert, et qui avaient été chassés, ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas rester avec leurs ouailles, c'était impossible. Les pasteurs du désert ont vu d'un très mauvais œil ces prédicants. Et ils ont même condamné, n'est-ce pas, certains d'ailleurs, au nom de l'absolutisme royal, disant « nous devons être soumis aux autorités, donc le roi a déclaré illicite la religion protestante, nous n'avons pas à résister, même à faire des réunions secrètes, non, ça allait loin, c'était vraiment là une soumission aux autorités qui allait un petit peu trop loin, hein. Bon. » Mais enfin, certains prenaient ça, ils ont envoyé des lettres furieuses, n'est-ce pas, à ceux qui osaient se rassembler. Et puis, dans un deuxième temps, on est arrivé à un modus vivendi. Les pasteurs du désert ont fini par comprendre que les prédicants étaient l'unique chance de survie de la communauté protestante. Et ils ont donc fait en sorte. Ils ont demandé que les prédicants viennent faire un séjour au refuge pour se former un minimum et pour être reconnus par les pasteurs. Ce n'était pas toujours possible. Certains se faisaient prendre, évidemment, aux sorties du royaume. Inutile de vous dire que leur sort, à ce moment-là, n'était pas extrêmement brillant. D'autres réussissaient à sortir, mais ne réussissaient pas à rentrer, et se faisaient prendre en rentrant, etc. Enfin, vous voyez ce que ça pouvait donner. Finalement, on s'est rendu compte que c'était absolument suicidaire que d'exiger des prédicants une semblable reconnaissance, et on s'est contenté de faire une reconnaissance de très loin. Les pasteurs, bon, bah, d'accord, si quelqu'un a été reconnu comme prédicant par la communauté locale, bah, il l'est, quoi, tout simplement. Nous, en quelque sorte, pasteurs du désert, nous le reconnaissons. Le refuge, la notion de refuge, a donné au protestantisme français une coloration particulière. Parce que pratiquement toutes les grandes familles protestantes de France jusqu'à aujourd'hui ont de la parenté à l'étranger. Telle branche, n'est-ce pas, de telle famille protestante aura des n'est-ce pas, on trouvera une personne qui a le même, des personnes qui ont le même nom en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis, à droite, à gauche, etc. Et le protestantisme français est resté très, comment dirais-je, très axé sur les communautés étrangères voisines, n'est-ce pas, qui constituaient autrefois les pays du refuge, et ceci jusqu'à ce jour. Maintenant, on peut dire que la situation de contre-réforme qui a marqué la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, a eu des effets divers selon les régions. En Poitou, par exemple, il y avait à peu près 90 000 protestants, donc c'était une grande province protestante, et la répression a été extrêmement dure, extrêmement sévère. C'était l'endroit où ont eu lieu les premières dragonnades, nous l'avons vu. En Bretagne, par contre, qui était une province voisine, au grand jour, n'est-ce pas, de la Réformation, on n'a pas compté plus de 6 000 protestants, c'est-à-dire que à peu près autant qu'il y en aurait aujourd'hui, et encore, je pense qu'aujourd'hui, on doit être encore en dessous de ce nombre en Bretagne. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu une répression en Bretagne aussi sévère qu'il y en a eu dans d'autres provinces où le protestantisme était beaucoup plus implanté. Il y avait donc des protestants jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Nous avons vu que le premier ministre d'Henri IV, Sully, n'est-ce pas, le bon ministre qui prenait les deux mamelles de la France, les labours, vous savez, tous appris ça à l'école, sinon moins ça s'apprenait encore, eh bien, et rester protestant jusqu'à la fin de ses jours, sans que ça pose de problème. Au moment de la contre-réforme, au moment de la révocation de Nantes, d'autres protestants de renom se sont convertis, notamment Turenne, qui a fini mal, comme on le sait, Duquesne, le grand marin bien connu, et puis d'autres aussi, tel Bernard Palissy, bien connu lui aussi pour ses travaux en domaine de la céramique, on dit qu'il est allé brûler jusqu'à ses meubles pour pouvoir alimenter son feu, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si c'est vrai, enfin, ça fait partie de la légende. Lui aussi était donc d'origine protestante. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Maintenant, en Bretagne, la Bretagne est retournée au catholicisme à partir du moment où Marguerite de Rohan, qui était la fille d'Henri de Rohan, qui lui était protestant, soit, a épousé un catholique. Par conséquent, la famille de Rohan, qui était donc les grands seigneurs de Bretagne à cette période-là, et qui continuait à exercer le pouvoir en Bretagne, et repassé au catholicisme, les autres ont fui. Tant et si bien que la noblesse bretonne retournant au catholicisme, eh bien, c'est la province tout entière qui est revenue au catholicisme. Alors, il y a eu donc cette émigration. La plupart de ceux qui voulaient rester protestants sont partis en Bretagne sans trop de difficultés, pour une raison très simple, c'est que il y a tellement de côtes en Bretagne qu'on ne peut pas mettre évidemment un gendarme dans toutes les criques, et la plupart des protestants bretons n'ont pas eu de grandes difficultés à fuir. Les Poitevins qui ont essayé de fuir par la Bretagne en ont eu davantage. Peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas le pays comme le faisaient les Bretons, mais par exemple, pendant le registre des Galériens, on note beaucoup plus de Poitevins, n'est-ce pas, pris par exemple dans tel port de Bretagne que de Bretons de souche. Bien entendu, ils étaient moins nombreux aussi, mais proportionnellement, il semble que les Bretons connaissaient les us et coutumes de la maréchaussée locale et savaient déjouer ces pièges beaucoup plus que les Poitevins qui arrivaient dans un pays inconnu avec le stress de fuir, etc. Alors, ce qui a subsisté du protestantisme l'a été par ce qu'on pourrait appeler une tradition orale. Beaucoup de ceux qui restaient d'ailleurs ne savaient pas lire. Et s'il est vrai que la Bible était très répandue parmi les protestants, c'est pas tout le monde qui avait la Bible, et c'est pas tout le monde qui était capable de lire. Donc, ça a été une tradition orale, et une tradition orale dans laquelle les femmes ont joué un très grand rôle. Et là aussi, on peut voir un parallèle avec les maranes. Chez les maranes aussi, jusqu'à nos jours d'ailleurs, on a pu constater ça en dernier dans notre enquête au Portugal, les femmes, ce sont les femmes qui exercent la fonction de transmission de la foi de génération en génération. Et là, les pieuses femmes du protestantisme, qui aussi, du fait qu'elles étaient femmes, risquaient un peu moins que les hommes. Je dis un peu moins. Les hommes pouvaient se retrouver sur les galères, éventuellement même se balancer au bout d'une corde. Bon, les femmes aussi, il y a des cas de femmes qui ont été pendues, ça. Mais en principe, n'est-ce pas, les juges étaient un petit peu plus tolérants vis-à-vis des femmes que des hommes. On n'envoyait pas de femmes aux galères, bien évidemment. Dans les couvents, c'était pas très agréable. C'était quand même moins pénible que d'être aux galères. Donc, si vous voulez, les femmes pouvaient se permettre de prendre un petit peu plus de risques que les hommes, si je peux dire. Bon, c'est pas seulement l'élément qui a déterminé ces femmes-là à faire ce qu'elles ont fait vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs maris, vis-à-vis de leur voisinage, n'est-ce pas ? Mais ça n'a peut-être pas quand même été sans influence. Bon, on cite, on aura l'occasion d'y revenir, un certain nombre d'assemblées qui se sont tenues, par exemple en Poitou, dans les dernières années du siècle. La première a eu lieu le 22 février 1688. Elle a groupé 2000 assistants au Grand Ruy, non loin de Lusignan. Cette réunion a été dispersée par la police. Il y a eu 31 condamnations aux galères, 15 condamnations à mort et 200 condamnations à des peines diverses de prison. Résultat de cette dispersion de l'Assemblée du Grand Ruy, 20 000 Poitevins partent pour le refuge. Bon, de ce fait, la police royale a décidé de surveiller étroitement les côtes. Et on a en particulier commencé à faire des patrouilles navales, des espèces de garde-côtes qui croisaient le long des côtes et puis qui a résonné tout ce qui passait à proximité. Bien entendu, si un bateau était suffisamment rapide pour échapper aux garde-côtes, eh bien c'était tant mieux pour lui. Sinon, eh bien ça pouvait se terminer extrêmement mal pour ceux qui fuyaient de cette manière-là. Alors, cette situation a conduit à la création petit à petit, n'est-ce pas ? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait petit à petit de toute une église souterraine, de toute une résistance souterraine, qui a pris des formes diverses. Et qui a pris des formes diverses selon qu'on se trouvait dans le nord ou dans le sud. Dans le sud, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on avait un sentiment de force, grandement surévalué, mais qui existait. Eh bien, on a été beaucoup plus audacieux. Et on a été, comme je le disais, on aura l'occasion d'y revenir, au début du siècle suivant en particulier, on a été jusqu'à la révolte armée, résistance armée. Dans les provinces du Nord, où on avait beaucoup plus le sentiment d'être minoritaire, peut-être il y avait des raisons aussi un peu théologiques, c'est possible, mais aussi peut-être que on s'est dit que c'est une résistance armée systématique, n'est-ce pas, n'avait aucune chance d'aboutir, et on s'est contenté d'une résistance non violente. C'est le cas en particulier en Poitou, sur lequel nous allons nous arrêter la prochaine fois. Nous avons étudié plus particulièrement Poitou pour deux raisons. La première, parce que c'est une province proche de nous. Puis deuxièmement, parce qu'en étant originaire, je connais un petit peu mieux ce qui s'est passé que dans d'autres provinces de France. Et puis, nous verrons ensuite, au siècle suivant, la résistance à Laurent-Sévenne, pour voir la différence, justement, entre les deux types de résistance. Deux types de résistance qui, finalement, étaient étaient complémentaires. Hein. Elles avaient leurs raisons, les unes les autres, logiques. Les protestants du Poitou n'avaient évidemment aucune chance dans une résistance armée, pour deux raisons. La première, parce qu'ils étaient beaucoup, beaucoup trop minoritaires. Et puis, deuxièmement, parce que leur pays ne se prêtait pas à une guérilla. Tandis que les montagnes des Cévennes s'y prêtaient. Voyez-vous, il y a des différences qui font que là, dans une même situation, on a réagi différemment. Mais le fond du problème était le même, c'était celui d'une résistance au nom de la foi pour pouvoir continuer à pratiquer librement sa foi en toute quiétude et sans être inquiété. Voilà, si vous voulez, ce qu'a été l'évolution qui, depuis la révocation de l'édit de Nantes, a conduit à deux formes de résistance qui vont se mettre en place dans les dernières années du siècle, en 1698 en Poitou, 1698 jusque les premières années du siècle, et puis en 1700, 1701, 1704 dans les Cévennes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?